en Matthieu chapitre 7. On est dans Matthieu chapitre 7. Nous allons lire à partir de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Matthieu chapitre 7, verset 1 à verset 12. Matthieu 7, verset 1 à verset 12. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas des choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles aux pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste, votre Père qui est dans les cieux, vous donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Allons prier. Seigneur, nous venons à tes pieds pour réclamer ta direction et ta sagesse. Nous confessons notre faiblesse et notre intelligence limitée. Et nous avons besoin que tu nous guides par ta sagesse, par ton esprit, pour la compréhension de ta parole et aussi pour sa mise en pratique. Guide-nous et conduis-nous, en t'en priant, en ton nom et pour ta seule gloire. Amen. Si vous avez l'habitude de prendre le train et de voyager pour aller au travail, vous avez peut-être noté que souvent les discussions que vous entendez autour de vous, hein, peut-être les vôtres aussi, je ne sais pas, ont trait aux relations des fois conflictuelles que les gens entretiennent les uns avec les autres. On parle souvent de boulot, d'un tel qui est au boulot, tu as vu comment il a fait, comment il a réagi, ah mais moi je ne comprends pas ça, etc. Et j'ai été souvent témoin de discussions comme celle-là. Et les gens parlent soit du travail, mais soit des relations parfois qu'il y a aussi au sein de la famille même, hein, entre un mari et une femme, des parents et des enfants. Et la question des relations les uns avec les autres est souvent ce qui constitue peut-être, il me semble en tout cas la plupart du temps, les conversations que les gens entretiennent. Et quand on considère l'Église, il semble qu'on trouve la même thématique aussi, hein, de relations les uns avec les autres. Dans l'Église primitive, par exemple, hein, il y a eu l'affaire, vous vous rappelez, des veuves, hein, des Hébreux, et puis il y avait une distinction qui était faite, puis il y avait des distributions qui ne se faisaient pas correctement, et ça a entraîné des conflits entre les personnes, des conflits relationnels. L'Église de Corinthe était connue pour ses divisions et ses clans. Il y avait même des partis dans cette Église. Il y avait même des personnes qui avaient des procès. Il y avait des procès entre les frères. Donc, il y avait des difficultés relationnelles. Et beaucoup d'exhortations de l'Écriture, d'ailleurs, ont à voir avec les relations que l'on entretient les uns avec les autres. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Et Paul évoque même, quand il parle aux Galates, l'idée de se mordre et de se dévorer. Il dit ici, voilà, vous vous mordez, vous vous dévorez. Hein, ça veut dire qu'il y a des fois des relations qui sont extrêmement tendues, même au sein des églises que l'on trouve dans la Bible. Et on pourrait passer, je pense, la matinée à parler des exemples bibliques. Mais peut-être que nos propres expériences d'église nous fournissent les meilleures preuves, en tout cas les preuves plus fraîches, hein, des relations difficiles que nous pouvons entretenir les uns avec les autres. Et face à toutes les difficultés, souvent relationnelles, que nous rencontrons, nous nous questionnons parfois sur la manière de régler ces choses. Comment régler les différends que nous avons les uns avec les autres? Et dans le sermon sur la montagne, Jésus aborde beaucoup les relations que les chrétiens entretiennent avec les autres personnes. Et quelles doivent être la nature de ces relations avec des chrétiens ou avec des non-chrétiens? Il nous enseigne, vous vous rappelez au chapitre 5, on avait lu qu'il ne fallait pas résister aux méchants, mais qu'il fallait tendre l'autre joue. Il fallait aimer nos ennemis, il fallait prier pour eux, leur faire du bien. On avait lu cela aussi au chapitre 5. On vient de lire au chapitre 7, au début du chapitre 7, qu'il ne faut pas juger avec un esprit de critique. Et donc, au verset 6, il nous demande de discerner la manière avec laquelle nous partageons la parole et l'intérêt pour l'Évangile. La question qu'on pourrait se poser ici, c'est comment donc agir avec son prochain? Comment aimer véritablement son prochain? C'est vrai que la parole nous demande d'aimer notre prochain jusqu'à aimer notre ennemi, mais pratiquement, comment est-ce que l'on pourrait faire cela? Et peut-être que si on nous posait la question, nous avancerions un certain nombre de choses qu'il faut faire. D'accord? Nous aurons peut-être toute une liste de choses qu'il faudrait faire pour entretenir de bonnes relations les uns avec les autres. Il faut faire ceci, pas faire cela, il faut tenir compte de telles circonstances, de telles conditions, de telles provenances culturelles. Et on pourrait trouver des tonnes et des tonnes de choses, établir des règles pour savoir comment on règle, comment on répond à nos différents que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Mais le Seigneur Jésus, dans sa sagesse divine, donne en une seule phrase, bien concise, bien précise, un principe général d'une très très grande valeur, d'une très très grande puissance. Le verset 12, qu'on appelle en général la règle d'or, hein, de l'amour, il dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Peut-être nous aurions mis beaucoup de petits règlements, peut-être de beaucoup de choses. Jésus met une seule chose. Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi, ici, dit-il, et les prophètes. Alors, c'est un principe, c'est un précepte qui est, si vous avez déjà réfléchi à cela, qui est vraiment très puissant, très profond, et qui est impossible, quasiment impossible pour nous d'appliquer. Pour moi, je voudrais qu'on voit ensemble le fondement de cette règle d'or. J'ai intitulé le message « La règle d'or de l'amour du prochain ». Mais quel est le fondement de cette règle d'or? Jésus ne dit pas comme ça dans le vide, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Si on lit dans la version originale, il y a un petit mot qui n'est pas ramené ici dans la version française que nous avons, mais par exemple dans la version Darby, je lis ce verset qui est une traduction un peu plus littérale, il dit « Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur, vous aussi, de même, car c'est la loi et les prophètes. » Donc je reprends « Toutes les choses donc » que vous voulez. Il y a un petit mot donc ici qui établit un lien avec tout ce qui a été dit avant. Et peut-être, probablement, avec les 7 premiers versets, les 11 premiers versets que nous venons de lire, et d'autres le font remonter jusqu'au chapitre 5, verset 17, où on retrouve l'expression où Jésus dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi. » Et peut-être que voilà, c'est ce que Jésus dit, c'est un peu le résumé de toute cette section, de toute l'éthique chrétienne. Quel est donc le fondement de cette règle. Donc, premièrement, on doit voir qu'il y a un lien entre ce qui est dit ici et ce qui est dit avant. Le donc exprime, si vous voulez, un c'est pourquoi ou un par conséquent. Hein. Par conséquent, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc, ce lien, il est bien établi, il faut qu'on le garde en tête. On pourrait lire le verset comme ça. « Votre Père qui est dans les cieux donne de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Donc, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Et en fait, on voit que ce que Jésus enseigne ici, c'est que ce que nous avons comme bénédiction en Dieu, ce que le chrétien a comme bénédiction en Dieu, la relation particulière dans laquelle il est plongé, parce que Jésus dit c'est votre Père qui est dans les cieux, eh bien le bénéfice de cette relation-là doit l'amener donc à agir de cette manière-là avec les autres, c'est-à-dire à faire pour les autres tout ce qu'ils aimeraient qu'on leur fasse à eux. Et donc les bénédictions du chrétien entraînent des privilèges. La bénédiction d'avoir un Père céleste entraîne des privilèges, des responsabilités, pardon. Ce privilège-là entraîne des responsabilités à l'égard des autres. On ne doit pas donc se bercer d'illusions que le Seigneur nous accordera de bonnes choses si nous n'aimons pas les autres et si nous ne cherchons pas le bien des autres. On ne doit pas se bercer d'illusions que le Seigneur va nous accorder de bonnes choses si nous n'agissons pas correctement à l'égard de nos semblables. Et l'Évangile maintient toujours ce lien entre ce que Dieu fait pour nous et ce que nous devons aussi faire pour les autres. Jésus dit en Matthieu, par exemple, Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15, nous avons déjà lu cela dans le passé, il dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Et il ajoute « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Il y a donc un lien entre le privilège que l'on peut avoir en Dieu, et puis la responsabilité qu'on doit avoir envers les autres. Et la Bible dit que, voilà, Dieu lui-même dit qu'il ne pardonnera pas si nous ne pardonnons pas. Il y a un pardon de Dieu qui est lié au fait que nous pardonnons à nos semblables. Et Jésus veut le marquer. Il ne faut pas croire que l'accès auprès de Dieu dans la prière et dans les requêtes que nous avons se font de n'importe quelle manière et sont inconditionnels. Dieu nous sauve de manière inconditionnelle, choisit de nous sauver. Mais dans la vie chrétienne, pas croire que nous avons accès auprès de Dieu, quel que soit l'état dans lequel nous sommes ou quelle que soit la qualité des relations que nous entretenons les uns avec les autres. Écoutez ce qu'on peut lire dans le premier chapitre d'Ésaïe. Vous pouvez lire cela, on n'a pas le temps de tout lire, mais il dit « Quand vous étendez vos mains, je détourne mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. » Autrement dit, Dieu dit que lorsque vous agissez dans le mal, dans les relations, dans l'injustice les uns avec les autres, je n'écoute pas vos prières. Je ne reçois pas. Il dit, je détourne. Et l'apôtre Pierre, par exemple, parle des relations entre un mari et sa femme. Et il dit au chapitre 3 de la première épître de Pierre, il dit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse, on parlait de la sagesse tout à l'heure, dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. » Il dit « Honorez-la comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie. » Et il ajoute « Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Autrement dit, il y a des moments où une relation brouillée dans le couple ferme l'accès à Dieu, à la prière. Et quand on maintient volontairement cette relation brouillée, Dieu dit, je n'écoute pas. L'apôtre Pierre dit, qu'il en soit ainsi, c'est-à-dire que vous devez vous comporter avec sagesse toujours envers votre épouse, afin de ne pas créer un obstacle dans la relation que vous avez avec Dieu. Ne croyez pas que vous aurez un accès à Dieu dans la prière, dans une véritable communion, si vous ne maintenez pas des relations saines dans votre couple. Et Arthur Pink, un auteur, il dit ceci, il dit, il est absolument vain de parler comme des anges quand nous sommes à genoux devant Dieu, si nous agissons comme des démons dans nos transactions avec les hommes. J'ai bien aimé cette phrase. Ça ne sert à rien, il veut dire, de plier les genoux dans de belles phrases avec de belles prières à Dieu. On prie comme des anges envers Dieu, mais on agit comme des démons envers nos frères et sœurs. Il dit, ça ne marche pas. Ce n'est pas ce que Dieu nous commande. Donc le chrétien, par l'Esprit de Dieu qui est en lui, a la capacité de vivre comme Dieu commande ici. Et donc c'est sa responsabilité de vivre. Et donc ce commandement que Dieu donne est fondé comme une conséquence de la relation, la position dans laquelle le chrétien se trouve. Et puis, bien sûr, je crois que ce commandement que Jésus donne ici, à Christ lui-même comme fondement, parce que lorsque l'on demande quelque chose à Dieu, Jésus dit que c'est en son nom qu'il faut le demander. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Jean chapitre 15, verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Chapitre 16, verset 23, il dit, en Jean, il dit, en ce jour-là, vous m'interrogerez plus. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. C'est-à-dire que l'accès que l'on a auprès de Dieu, le Père, se fait par Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul disait que c'est par lui que nous avons, auprès du Père, accès dans un même esprit. C'est par Jésus-Christ que le chrétien a accès auprès du Père. Mais il dit ici que cet accès que l'on a auprès de Dieu par Jésus-Christ doit se manifester vraiment dans la qualité de la relation que l'on entretient les uns avec les autres. Il dit, si donc vous avez cet accès, si donc vous pouvez demander à Dieu des choses, puisque vous avez un Père céleste qui vous donne et qui est prêt à vous donner, il dit, eh bien alors, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est ainsi qu'il faut les aimer. Donc, je pense que c'est là un peu le fondement de ce commandement que Jésus donne. Mais deuxièmement, je voudrais voir les exigences de la règle d'or de l'amour du prochain. Quand on lit ce verset, je crois qu'on est devant quelque chose qui est très exigeant. Ou alors, on n'a pas compris. Si on pense que c'est facile, c'est que on n'a pas compris exactement de quoi il en retourne. On trouve dans l'histoire, dans l'éthique humaine, beaucoup de parallèles à cette règle d'or. Mais elles sont quasiment toutes exprimées de manière négative. Donc, il y a Confucius. Hein. Vous avez peut-être entendu parler de Confucius. Il disait, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Et puis, j'ai lu qu'on trouve dans les livres, on appelle ça les livres deutérocanoniques, c'est-à-dire ce n'est pas les commandements de la Bible hébraïque, mais on trouve chez les Juifs ces livres. Il y en a un qui dit, ce que tu n'aimes pas, ne le fais à personne. Ce que tu n'aimes pas, ne le fais à personne. Et puis, on pourrait trouver, il y en a plein d'autres encore, j'ai vu qu'il y en avait plein d'autres, mais tous sont exprimés de manière négative. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. On peut dire, bon, moi, je ne voudrais pas qu'il m'insulte, alors je ne l'insulte pas. Parce que je ne veux pas qu'on m'insulte. Je ne voudrais pas qu'il me parle, alors je ne lui parle pas. Hein? Donc, on pourrait imaginer toutes sortes de choses. Mais il faut noter que le commandement de Jésus ici, il n'est pas négatif, il est positif. Il ne dit pas ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Il dit tout ce que tu veux qu'on te fasse, ou ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, il dit faites-le de même pour eux. Et il place la chose sur un plan complètement différent. Et la règle est beaucoup plus exigeante. Il est plus facile de ne pas faire quelque chose, parfois de mal, que de faire quelque chose de bien. Je trouve que c'est plus facile de résister parfois. Hein. Comme je vous avais partagé cela quand il y a eu les attentats au Bataclan, il y a un homme qui a perdu sa femme dans ces attentats et il a écrit un article sur Internet où il a dit « Vous n'aurez pas ma haine ». Il a dit « Vous n'aurez pas ma haine ». Il a dit « Je ne veux pas que ces gens-là aient ma haine ». Mais quelque part, ouais, c'est comme s'il dit « C'est ce que vous cherchez et je vous prive de ma haine ». Mais il n'a pas dit « Je vous donnerai mon amour ». Et retenir sa haine est quelque chose qui est peut-être possible, surtout si on est contraint à le faire. Si je sais que en bousculant, en blessant mon frère, je serai en prison, peut-être je vais me retenir parce que je n'ai pas envie d'aller en prison. D'accord. Mais faire le bien gratuitement, c'est quelque chose qui est très, très difficile. Et quelqu'un a dit, faire le mal pour le mal, c'est diabolique. Il a dit, faire le mal pour le... Comment il avait dit, je ne sais plus comment il avait dit, en tout cas, faire le mal pour le bien, c'est... le bien, pour le bien, il a dit, c'est humain, d'accord. Mais faire le bien pour le mal, c'est divin. C'est-à-dire, on peut faire du bien à ceux qui nous font du bien, mais faire du bien à ceux qui nous font du mal, c'est très, très difficile. Et le commandement de Jésus ici, il est vraiment positif et exigeant. Il nous demande de faire des choses à l'égard des autres. Il exige que l'on se... détourne premièrement de soi-même. Que l'on se détourne de soi-même. Quand on prend le commandement négatif, quand on dit « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse », qui c'est qui est au centre? C'est moi. Je ne veux pas qu'on me fasse du tort, alors je ne fais pas du tort aux autres. Voilà. Je pense à moi premièrement. Mais quand Jésus dit « Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même. » Pour eux, il place les autres au centre. C'est-à-dire, il détourne mon attention. Le pour vous, ce n'est pas ça qui est important. Il dit, tu vas considérer ce que tu veux qu'on fasse pour toi, mais pour le faire pour les autres. Et c'est les autres qui deviennent les grands bénéficiaires. Et ce que Jésus exige ici, enfin, ce commandement de Jésus est exigeant en ce sens qu'il nous demande de nous détourner de nous-mêmes. De nous détourner de nous-mêmes. Et puis, il est exigeant en ce sens qu'il nous demande de nous mettre, il demande de se mettre à la place de l'autre pour pouvoir accomplir vraiment ce commandement. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Il nous demande pas simplement d'évaluer nos désirs ou nos souhaits et puis de l'accomplir à l'égard des autres pour qu'ils nous rendent l'appareil. Je veux que les gens m'invitent. J'aimerais qu'ils m'invitent. Alors je les invite, et comme ça ils vont m'inviter. C'est pas ça que Jésus dit ici. Vous voyez, là je suis toujours au centre de la chose. Hein. Il dit pas cela. Hein. Et d'ailleurs, Jésus il avait traité ce problème hein, quand il a parlé dans Luc chapitre 6 par exemple. Il dit, si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, il dit, vous, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Il dit donc, ça c'est une attitude païenne de prêter pour pouvoir recevoir en retour. Donc c'est pas ce qu'il dit ici. Hein. Il dit pas qu'il faut faire ce que vous avez envie qu'on vous fasse pour qu'on puisse vous le faire à votre tour. Non, c'est pas du tout le sens de son commandement. La règle que Jésus énonce ici consiste, je crois, à se mettre à la place des autres dans un certain sens. Le commandement suppose qu'on fasse quelque chose de difficile, qu'on s'imagine à la place de l'autre. Et une fois dans cette place, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me fasse dans cette situation? Et une fois que je vois ce que j'aurais aimé qu'on me fasse, eh bien, je retourne à ma place et je le fais à l'égard de l'autre. Je me place dans la situation de celui qui est en face, peut-être qui m'a blessé, que j'ai blessé, avec qui j'ai des difficultés, et je cherche son bien. Ça n'est pas quelque chose qui est facile, vous savez, de se mettre à la place de quelqu'un. Il n'y a qu'à écouter comment on parle. Quand on parle, on dit « moi, je ». Moi, je suis comme ça. Moi, je démarre au quart de tour. D'accord ? C'est comme ça que l'on parle souvent. Hein. Moi, chez nous, aux Antilles, on fait comme ça. D'accord ? Et c'est ça qui est le plus important. Peu importe les autres comment ils font, aux Antilles, on fait comme ça. C'est la norme. D'accord ? On agit souvent en se mettant vraiment au centre. Et on a du mal à se mettre à la place de l'autre. Et ce commandement de Jésus, je crois, exige que nous mettions à la place de l'autre. Nous essayons souvent de régler la plupart de nos problèmes en partant de nous-mêmes, en nous mettant au centre avec notre situation. D'accord ? Et c'est notre douleur, notre blessure, notre frustration qui sont les choses les plus importantes. Nous sommes au centre et puis aussi, bien sûr, nous sommes meilleurs que les autres parce que moi, je n'ai pas fait ça, lui, il a fait ça. Hein, et c'est moi qui souffre, et puis lui, il ne souffre pas. Et donc, on est vraiment très égocentrique. Ce que le commandement de Jésus suppose ici, c'est vraiment qu'on fasse l'effort de se mettre à la place de l'autre, d'évaluer vraiment sa situation, et quelles seraient mes attentes dans cette situation. Peut-être je me dis, voilà, je suis dans cette situation, j'aurais bien aimé qu'on me parle, j'aurais bien aimé qu'on me pardonne. J'aurais bien aimé entendre une parole d'encouragement, peut-être. Parce que c'est vrai que je passe par des moments difficiles, j'ai réagi de cette manière, mais vraiment, je passe par des situations difficiles. Et si, à moins de se mettre à la place de l'autre pour essayer, au moins dans la pensée de vivre ce qu'il vit, d'accord ? On pense que nous sommes le centre du monde. On pense que nous sommes le centre du monde. Et si on veut vraiment faire pour les autres ce que nous aimerions qu'ils fassent pour nous, il faut nous placer dans leur situation. Il faut faire des échanges de situations. Et puis, voir ce que nous, à cette place particulière, nous aurions aimé que l'on nous fasse. Comment aurions-nous aimé que l'on nous traite ? D'accord, j'ai fauté, d'accord, j'ai fait des choses qui ne sont pas correctes, mais voilà. Est-ce que je m'attends à être battu? Est-ce que je m'attends à être critiqué? Je suis déjà par terre. Est-ce que je m'attends à être critiqué? Non, j'ai envie que l'on me comprenne, que l'on prie pour moi, que l'on me parle. Mais si je me mets à la place de l'autre, que je ressens ça, je retourne à la mienne et je lui procure cela. C'est ça que je crois, c'est comme ça que je comprends ce commandement que Dieu donne ici. Il veut que nous placions dans la situation de l'autre pour essayer de comprendre son besoin et répondre à son besoin. Mais pas de le critiquer, pas de le blesser, pas de lui rendre l'appareil de ce qu'il nous a fait. Et puis, je crois que ce commandement, cette règle, ce précepte, il est exigeant et qu'il exige aussi pour nous, selon ce que Jésus dit, de prendre l'initiative du bien. Vous voyez ce que Jésus dit ? Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, attendez qu'ils vous le fassent. C'est ça qu'il dit ? Non, il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ça veut dire, prenez l'initiative de faire le bien à l'égard des autres. Ceux desquels vous attendez quelque chose, soyez les premiers à leur faire du bien. Et on aime attendre. Notre tendance naturelle consiste à attendre qu'on nous fasse du bien. Non seulement on attend des fois que les autres viennent vers nous, mais on le reproche quand ils ne font pas le premier pas. On dit, cette personne, elle est distante, elle ne me dit pas bonjour. Et on dit, voilà, et souvent on dit, mais c'est lui qui a commencé avec cette discussion ou avec ce problème. C'est lui qui doit venir en premier me voir. Okay. Et on attend que les autres viennent vers nous. L'évangile, tel que le Seigneur nous le présente ici, nous demande d'être à l'initiative du bien, de ceux qui font le premier pas, ceux qui créent les occasions. Je me rappelle il y a longtemps, de ce pasteur qui voyait, je sais pas, dans une ville, un autre jeune qui je pense qu'il était dans le ministère aussi, qui attendait que les choses se présentent pour l'évangélisation. Et le pasteur dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'attends que les situations, que l'étincelle jaillisse. Et le pasteur lui dit, mais il ne faut pas attendre l'étincelle, il faut créer l'étincelle. Et on a besoin d'être comme ça aussi dans notre relation. On attend qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et puis non, le Seigneur dit, fais-toi, mets-toi dans la position. Essaye de compatir, de comprendre quelle peut être la douleur de ton frère. Et puis toi, fais le bien envers lui. Même s'il t'a fait du tort, tu fais le bien envers lui. Et surtout, j'ai envie de dire, tâche d'être le premier à le faire. C'est ce que Jésus dit ici. Prenez donc l'initiative de faire le bien. Dieu désire toujours que ses enfants soient à l'initiative des bonnes actions. Par exemple, Jésus dit, si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Tu es là en train d'adorer, tu te souviens que lui, il a quelque chose contre toi. Peut-être à cause de toi, Jésus ne le dit pas, peut-être à cause d'une situation, mais il dit ce que tu dois faire, tu dois aller te réconcilier avec ton frère. Tu ne dis pas, mais c'est lui qui a quelque chose contre moi, moi j'attends. C'est à lui de faire le premier pas. Jésus dit non, toi tu fais le premier pas, tu y vas. L'apôtre Paul disait en Romains chapitre 12, il dit ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même. Vous voyez, à chaque fois, c'est très positif et très, je ne sais pas comment il faudrait dire ça, mais tu recherches le bien, c'est toi qui dois faire le premier pas, c'est toi qui dois être en paix avec les autres. Tu dois tout faire pour être en paix. Tu dois être dans la recherche constante du bien devant tous. Un peu plus loin, au chapitre 12, verset 21, il disait encore, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Il dit, ne fais pas que résister au mal, fais plus que cela. Tu surmontes le mal en faisant le bien. Et donc, c'est cela, je pense, cette exigence de prendre l'initiative du bien. Et puis aussi, je crois que ce commandement de Jésus nous montre l'exigence de recourir aux ressources divines. Parce que qui c'est qui peut faire cela? Naturellement, personne ne se met à la place des autres. Alors, ça peut arriver une fois, voilà, on a essayé de se mettre à la place de quelqu'un, mais de manière continuelle, non. Je me place toujours au centre de tout. Naturellement, nous sommes égoïstes. Pas croire que nous sommes bons de nature, c'est pas vrai. Nous sommes naturellement égoïstes et nous nous plaçons au centre. Et nous n'avons pas cette inclination naturelle pour aller vers l'autre. Il faut on a besoin de la force que le Seigneur donne pour nous tourner vers les autres. Alors, qu'est-ce que l'on doit faire? Eh bien, on doit recourir aux ressources divines, demander à Dieu sa direction. Comme on a dit tout à l'heure, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu de la sagesse. On a besoin d'appeler Dieu à notre secours pour qu'il nous aide à nous placer dans la position de l'autre et à agir pour le bien de l'autre, à chercher ce qui serait juste et droit pour l'autre dans cette situation dans laquelle il vit et à le lui accorder, indépendamment de ce qui a pu se passer. D'accord ? Et c'est peut-être par là que commence aussi le rétablissement et la réconciliation dans nos relations. Si nous avons besoin de sagesse, qu'on la demande à Dieu. On ne sait pas comment faire. Bien, Dieu nous dit, voilà, comment, Jésus nous dit comment faire. Tu veux aimer véritablement ton prochain, ton frère, celui avec qui tu es bien, celui avec qui tu as des difficultés. Il dit, tout ce que tu veux qu'il fasse pour toi, tu le fais pour lui. Alors, tu cherches à savoir qu'est-ce qui serait juste et droit de faire dans sa situation. Et tu travailles pour accomplir cela à son égard. Et puis, troisièmement, donc on a vu le fondement de cette règle, ses exigences, et puis je voudrais juste rapidement parler de l'excellence de cette règle d'or. Son excellence est montrée par, je pense, le rang auquel Jésus l'élève. Jésus dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. C'est quelque chose, c'est comme si Jésus dit, il résume toute la loi et les prophètes dans ce précepte-là. On trouve la même chose. Et lorsque vous vous rappelez, lorsque cet homme est venu voir Jésus, puis il a dit, quel est le plus grand commandement? Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et voilà le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit, de ces deux commandements découlent la loi et les prophètes. Extraordinaire ça. Jésus dit la même chose. Donc c'est pratiquement la même chose que Jésus dit ici. Et l'apôtre Paul dit, je pense que c'est à l'épître aux Galates, il dit que toute la loi est résumée dans cette parole, deux points, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, cela nous donne un test. Quand nous disons que nous obéissons à la loi de Dieu, j'aime Dieu, je cherche à obéir à sa loi, si je n'entretiens pas de mon fait, c'est-à-dire si je ne fais pas tout pour entretenir de bonnes relations avec les frères et sœurs et avec les autres, je me trompe et je m'abuse moi-même. Si je ne fais pas tout ce qu'il faut pour parler avec les autres, je m'abuse moi-même. C'est important de considérer cela. Jésus lève ce commandement à un rang très haut. On voit l'excellence de cette règle aussi par l'étendue de son champ d'application. Cette règle est applicable à toutes les circonstances. Imaginez qu'on arrive à pratiquer cela vraiment. Franchement, est-ce que vous croyez que vous n'aurez des problèmes relationnels? Moi, je ne crois pas. De vol, d'adultère, de... Non. Non, parce qu'on pensera d'abord à l'autre. On pensera d'abord à l'autre, dans sa situation. Et comme Jésus disait, c'est l'apôtre Paul qui disait que personne n'a jamais haï sa propre chair, quand on est dans une situation, on cherche toujours les choses qui ont le meilleur pour nous. Donc quand on se met la situation de l'autre et qu'on comprend sa situation, qu'on regarde qu'est-ce qu'il y aura de meilleur pour lui et qu'on travaille à cela et un autre le fait pour nous, etc., eh bien on n'aura pas tous les problèmes que l'on traîne à cause de notre égoïsme. Et puis je crois que cette règle est excellente par la révélation qu'elle nous donne de nous-mêmes aussi. Elle nous donne la vérité sur nous-mêmes. Dans tous les problèmes que nous rencontrons, nous avons une haute opinion de nous-mêmes. Nous sommes toujours mieux que l'autre. D'ailleurs, on critique toujours l'autre. C'est lui qui a fait ceci. Moi, je veux bien, mais lui. Et c'est toujours l'autre qui a tort. Mais ce commandement de Jésus prouve ici son excellence par le fait qu'il nous fait prendre conscience que nous avons du chemin à parcourir. Il dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Est-ce qu'on en est là? Non. Mais c'est qu'on a du chemin à parcourir. On n'est pas aussi bien qu'on le croit. On n'est pas aussi bien qu'on le croit. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous, moi le premier, on n'est pas aussi bien qu'on le croit. On a du chemin à parcourir. Juste pour vous donner un petit exemple, on a acheté à la maison une petite boîte pour de l'encre pour l'imprimante. Et ma femme, j'étais en train de préparer justement ce message, et ma femme a son petit bureau à l'étage, et elle voulait imprimer, et elle descend, elle me dit, ah, il n'y a pas d'encre dans l'imprimante, est-ce que tu veux installer... j'ai dit, je ne vais pas faire ça maintenant, il faut que je prépare mon message. Et tout de suite, c'est venu à mon esprit le verset, mais mets-toi à sa place. Elle a besoin d'encre pour imprimer quelque chose pour l'église, pour la classe. Il dit, si c'était toi, est-ce que tu aimerais que quelqu'un t'installe l'encre pour que tu puisses le faire? Puis j'ai dit, mais qu'est-ce que je suis loin de ce que Dieu me demande de faire? Alors que j'étais en train de regarder cela, des petites situations. Il y a plein de petites situations comme ça qui peuvent arriver dans notre vie tous les jours. On pense d'abord à nous, mon message. Il faut que j'avance. Et on a du mal à se mettre à la place de l'autre et à répondre à ses besoins. Vraiment, si on agit comme cela, je crois que le Seigneur montre que beaucoup de choses s'amélioreraient dans nos relations. Je dis donc, cela nous révèle que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Et pire que ça, ça nous révèle, je crois, que souvent ce que l'on condamne chez les autres, nous l'avons nous-mêmes pratiqué. Ici, hein. J'ai lu en préparation à ce message, quelqu'un qui a cité ce verset dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. Il dit, certes, il n'y a pas d'homme juste sur la terre qui ait fait le bien et qui n'ait pas péché. Bon, on le croit généralement, d'accord ? Mais quand les gens nous font du tort, on croit toujours que nous sommes meilleurs qu'eux. On n'a jamais fait ce qu'ils ont fait. Et on ne fera jamais ça, moi. D'accord ? Et le verset ajoute, aussi, ne mets pas ton cœur à toutes les paroles qu'on dit peut-être de toi, afin que tu n'entendes pas ton serviteur te maudissant. Parce que peut-être que si tu commences à écouter, tac, 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 tu as un moment de réalité, tu vas entendre des choses que ton serviteur rapporte de toi-même. Et il dit, car aussi ton cœur sait que bien des fois, toi aussi, tu as maudit les autres. Ecclésiaste chapitre 7, versets 20 et à 22. Il dit, ton cœur sait bien, dans le fond, que toi aussi, tu as mal parlé à l'égard des autres. Donc, fais attention, ne prête pas l'oreille, apprends à agir différemment. Et Frédéric Goudet qui donne un commentaire de ce verset, il dit, il n'y a pas de juste, tu ne l'es pas, sois donc indulgent pour autrui et méfiant. Si l'on te juge sévèrement, ne te préoccupe pas trop, ne fais pas dépendre ta conduite de l'opinion des autres, sache ignorer les propos qui pourraient t'irriter et souviens-toi que tu n'as pas toujours été juste dans tes appréciations. Et c'est ça qu'on doit... Je pense que cette règle est excellente par le fait qu'elle nous révèle vraiment aussi que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Et nous avons besoin de courir au Seigneur pour qu'il nous change et nous transforme. Quelques conclusions, chers frères et sœurs. Premièrement, je voudrais faire remarquer que ce que Jésus dit ici montre que notre conduite à l'égard des autres ne doit pas être fonction de comment ils nous traitent, mais de comment Dieu nous a traités. Notre conduite à l'égard des autres ne doit pas être fonction de comment ils nous ont traités, mais comment Dieu nous a traités. C'est ce qu'on voit dans ce passage, parce qu'il est dit, vous avez un Père céleste qui vous donne de bonnes choses à ceux qui lui commandent. Donc, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Il dit, il faut d'abord, je crois que ce passage, ce verset, met d'abord Dieu devant notre pensée. Et il dit que nos pensées, nos actions à l'égard des autres ne doivent pas être liées à ce qu'ils nous ont fait, mais elles doivent être liées à ce que Dieu a fait pour nous. Comment Dieu nous a traités? Est-ce qu'il nous a rejetés? Est-ce qu'il nous a repoussés? Non, il nous a pardonnés, il nous a aimés. C'est pour cela qu'on trouve dans la parole de Dieu beaucoup... Quand il parle, par exemple, du pardon, il dit, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous réciproquement les uns les autres. C'est-à-dire, tu considères comment Dieu t'a traité, comment il t'a pardonné. Et c'est ça qui doit être ta norme, ta base de réflexion pour agir à l'égard des autres. Pas comment les autres t'ont traité. Ça n'est pas un problème. Ton problème, c'est de regarder comment Dieu t'a traité. Et en fonction de ça, agir à l'égard des autres. Et c'est exactement ce que Jésus montre. J'en ai pas le temps de le lire, mais dans Matthieu 18, quand il donne cet exemple, vous vous rappelez de cet homme qui devait à un prince 10 000 talents. Et puis, ce serviteur vient et le maître lui dit, maintenant, il faut que tu rembourses. Et puis, il dit, oh, mais maître, je ne peux pas, sois patient envers moi, je te rembourserai, etc. Et la Bible dit que le maître a effacé sa dette. Franchement, le maître savait bien qu'il ne pouvait pas rembourser. Il a exercé la miséricorde envers lui. Il n'a jamais pu rembourser, ça, les intérêts montent, ce n'est pas maintenant qu'il va rembourser. Hein. C'est comme la France avec ses dettes, hein. On ne sait pas comment on va faire, on dit toujours, hein, tout s'accumule, et à un moment donné, on se dit qu'on ne peut plus du tout rembourser. Le maître lui fait grâce. Et cet homme, il s'en va tout content, et qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre un autre qui lui devait à lui de l'argent, mais alors une somme dérisoire à côté de la somme colossale que lui devait à ce premier maître. Et qu'est-ce qu'il lui fait? Il l'attrape par le collet, et puis il dit, paye, lui, il dit, non, excuse-moi, je vais payer, fais-moi grâce, sois patient envers moi. Il dit, non, tu payes maintenant, sinon c'est la prison. Et il le prend et le jette en prison. Et bien sûr, les serviteurs, ils voient ça, ils reviennent vers le premier maître, qui lui disent, ah, voilà ce qu'il a fait, celui à qui tu as remis la dette, voilà comment il a agi avec un autre. Et la Bible dit ceci, Jésus, c'est Jésus qui raconte ça, il dit ceci, il dit, alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas? Voilà, il tombe dans le devoir que cet homme avait, en vertu de ce qu'il lui avait fait auparavant. Ne devais-tu pas, dit-il, aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et ce que ce maître Jésus met en évidence ici, c'est que cet homme, compte tenu du fait de la manière avec laquelle il avait été traité par celui à qui il devait une somme colossale, il se devait de traiter avec égard l'autre. Donc ce n'est pas à la dette qu'il faut regarder quand nous avons des difficultés. Ce n'est pas aux offenses que l'on nous a faites qu'il faut regarder. C'est comment Dieu nous a traités avec l'offense du péché, qui est une dette énorme, incapable pour nous de la payer. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Il a payé pour nous. Il a effacé cette dette. Il dit maintenant, toi, ce que tu dois faire avec les autres, c'est que tu dois pardonner. C'est une obligation. Ne devais-tu pas le faire compte tenu du fait que ce que j'ai fait pour toi? Tu devais faire comme j'ai fait pour toi. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Notre conduite à l'égard des autres ne doit pas être fonction de comment nous traitons, comment ils nous traitent, pardon, mais comment Dieu nous a traités. Deuxièmement, le signe évident d'une réelle conversion se voit dans la manière avec laquelle nous traitons les autres, et particulièrement les frères dans la foi. Le signe évident d'une réelle conversion se voit dans la manière avec laquelle nous traitons les autres et particulièrement les frères dans la foi. Ça ne sert à rien de dire « j'aime Dieu » si je n'aime pas les frères, dit la Bible. Si je traite durement mon frère, j'ai un problème, je continue à le faire régulièrement, je ne lui parle pas, je ne lui cause pas, je ne prie pas, je ne m'entretiens pas de mon frère. Eh bien, la Bible dit que j'ai un problème, j'ai une difficulté. Je ne peux pas dire, je suis au Seigneur, et puis je méprise celui qui est mon frère. Ce n'est pas possible. 1 Jean chapitre 3, 14 dit, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons le Seigneur, parce que nous étudions la Bible, parce que nous faisons des études de théologie, parce que nous chantons dans la chorale, parce que nous prêchons. » Est-ce que c'est ça que le verset dit? Écoutez bien, il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. L'amour pour les autres est une caractéristique fondamentale de celui qui a reçu Christ dans son cœur. Jésus a dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le meilleur témoignage qu'on peut donner au monde, ce n'est pas le fait de raconter des choses, c'est le fait de montrer au monde la qualité de l'amour qui existe dans les relations que nous entretenons les uns avec les autres. Comment nous sommes prompts au pardon, à chercher le bien de l'autre, Ça montre que nous sommes vraiment au Seigneur. C'est un vrai test de la foi qui sauve. Et 1 Jean 3, verset 15 dit « Quiconque est son frère de la haine est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Donc, je nous interpelle là-dessus. Hein. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Celui qui n'aime pas, il est comme un meurtrier. Donc, nous devons demander au Seigneur sa grâce pour aimer, nous aimer les uns les autres et entretenir de bonnes et de saines relations les uns envers les autres. Et puis, dernièrement, je dirais que le Seigneur Jésus est préoccupé par notre progrès spirituel. Le passage nous montre que Jésus est préoccupé par notre progrès spirituel. C'est à chacun d'entre nous que le commandement est adressé. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et dans la Bible, vous allez voir, Dieu ne nous donne jamais des commandements pour les autres. Il ne dit pas au mari, « Marie, faites en sorte que vos femmes soient soumises. » Il ne dit pas à la femme, « Femme, faites en sorte que vos maris vous aiment. » Il ne dit pas aux enfants, « Enfants, faites en sorte que vos parents vous instruisent et qu'ils ne s'irritent pas contre vous. » D'accord ? Il dit, « Marie, aimez vos femmes. » Dieu parle au mari. Dieu dit, « Femme, soyez soumise à votre mari. » Il parle à la femme. Il dit, « Père, enseignez vos enfants. » Il parle au père. Il dit, « Enfant, obéissez à vos parents. » Il parle aux enfants. Il parle directement à chacun d'entre nous. Il ne nous demande pas de faire en sorte que les autres fassent à notre égard. Il nous demande de faire à leur égard. Il nous donne une responsabilité. Et Jésus est préoccupé par le fait que nous croissions spirituellement et que nous obéissions à sa parole, chacun. Donc cette parole nous est adressée à chacun. Et c'est un commandement du Seigneur Jésus. Tous les commandements du Seigneur Jésus sont pour que nous puissions les pratiquer. Tu as donné ta loi afin qu'on les observe avec soin, disait le psalmiste. Et je termine avec cette citation d'Arthur Pink qui dit que lorsque nous ne mettons pas les commandements de la parole de Dieu en pratique, un commandement comme celui-ci, toute la connaissance que nous accumulons ne fait qu'accroître notre condamnation. Et si nous ne mettons pas en pratique les commandements que la parole de Dieu nous donne, et nous avons un commandement aujourd'hui, ce matin ici, il dit toute la somme de connaissances que nous accumulons ne fait qu'accroître notre condamnation. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous pratiquions sa parole et que nous la mettions en pratique. Que nous reconnaissions, et moi le premier, que nous sommes loin de ce qu'il nous commande, que nous avons besoin de lui. La loi de Dieu est parfaite. D'accord ? Dieu ne nous donne pas des commandements qui sont faciles à mettre en pratique, sinon ce serait naturel. Il faut des ressources surnaturelles, spirituelles, pour que nous puissions vivre ces choses. Mais il nous donne. Il donne à ses enfants son esprit. Si vous ne le connaissez pas, bien il dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Et si vous ne connaissez pas vraiment Christ, c'est le temps de venir à lui pour qu'il vous sauve. Si vous connaissez Jésus-Christ, eh bien, chers frères et sœurs, nous savons ce que nous avons à faire. Chacun, c'est de mettre vraiment sa parole en pratique. Et Dieu nous dit ce matin, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Que l'Esprit de Dieu nous éclaire dans notre foyer, nos relations avec nos épouses, les uns avec les autres, avec nos enfants, avec les collègues, pour voir où nous en sommes dans ce commandement et qu'il nous aide à le mettre en pratique. Prions. Te remercions, Seigneur, pour ta grâce envers nous et ton amour et nous te demandons de nous aider à vivre ces choses et à les mettre en pratique avec l'aide de ton Esprit. Te prions, ton nom est pour ta seule gloire. Amen.